Burkina Faso qui lutte contre une insurrection djihadiste.
Merci beaucoup Nanit. Place maintenant à nos invités pour décortiquer tout cela. À Dakar, Ibrahim Yahya Ibrahim, analyste principal à ICG, International Crisis Group. À Abidjan, Ibrahim Akan, analyste politique chargé de plaidoyer à Osiwa auprès de l'Union africaine. Et avec moi ici en studio à Washington, Raoul Kedi, directeur général de Racket International LLC, membre du conseil d'administration de la mairie de Houston dans l'état du Texas. Merci à tous d'être avec nous. Je vais démarrer avec vous, Ibrahim Yahya. Alors, le Niger a connu la semaine dernière son cinquième coup d'État réussi, mais avec les deux mandats du président Mahamadou Issoufou et le transfert pacifique du pouvoir à son successeur Mohamed Bazoum, le pays semblait consolider sa démocratie. Que s'est-il passé?
Et vous avez bien raison de le souligner. Il y a deux ans de cela, lorsque Bazoum prenait le pouvoir, il y avait une sorte de d'extase et de contentement que pour la première fois dans l'histoire du pays, on a un transfert du pouvoir d'un gouvernement démocratiquement élu à un autre. Sans compter aussi des victoires que vous avez très bien rappelées dans le reportage. Une longue histoire d'une tension politique entre les militaires qui sont à la fois l'armée qui est une institution de l'État, mais qui est aussi un contre-pouvoir qui pourrait à tout moment intervenir pour renverser un pouvoir civil. Dans ces cas de figure, il y a plusieurs choses qu'il faut noter pour expliquer ce coup d'État-là. En premier, c'est la gestion de la situation sécuritaire. Officiellement, les militaires, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont mis en avant des désaccords qu'ils ont avec le gouvernement de Bazoum quant à la gestion de la situation sécuritaire. Il faut rappeler que le Niger fait face à une situation d'insécurité due aux activités de groupes djihadistes.
Mais Ibrahim, les militaires ne sont-ils pas comptables de cette situation sécuritaire aussi?
Mais bien sûr, qu'ils le font, parce que c'est eux qui ont en charge la mise en œuvre de la stratégie, qui définit la stratégie et qui la met en œuvre. Ce que le gouvernement fait en général, c'est de donner les moyens nécessaires pour leur permettre d'opérer notre stratégie sur le terrain. Donc, c'est pourquoi, quand on mentionne cette justification-là, on a envie de dire que ça ne tient pas la route. Et surtout aussi quand on sait que le Niger s'en sort beaucoup mieux que notamment le Mali et le Burkina Faso, dans la gestion de la sécurité.
D'accord.
Au moment, au cours de ces deux dernières années, la situation sécuritaire au Mali a fait empirer, au Burkina Faso aussi. Mais au Niger, quand même, on ressent que cette situation sécuritaire est en train de s'améliorer.
D'accord. Alors, Ibrahim Akan, est-ce qu'on doit parler d'effet contagion ou bien le Niger a peut-être ses propres réalités qui ont provoqué ce retour des militaires au pouvoir?
Bon, ce coup d'État, tout le monde sait comment il est arrivé. Je pense que c'était dans la volonté du président déchu de réorganiser les forces de sécurité parce qu'il a hérité ses généraux de la présidence de Issoufou et qui voulait avoir des hommes à lui qui pourraient gérer le pouvoir. Et donc, le dernier, le chef de la garde présidentielle n'a pas entendu ça de cette façon et a pris le pouvoir. Mais ce que l'on peut dire dans le cadre du Niger et la réaction de la CDAO, c'est que la CDAO avait la volonté de mettre un terme à ce que vous appelez une contagion. On ne peut pas dans une région de 15 États où à peu près le tiers, c'est-à-dire 4 ou 5 États, sont entre les mains de militaires, alors que la région a vocation à faire en sorte que la gestion de l'appareil d'État soit entre les mains des civils et que les militaires soient cantonnés à la protection des personnes et des biens, mais aussi à la protection des frontières du pays. Donc ça ne fait pas sens. Et d'autant plus que lors de la dernière réunion, la CDAO qui s'est tenue à Abuja le 3 juillet, il était clairement ressorti de cette rencontre que désormais le cap devait être fait sur le respect de la démocratie, de l'état de droit et que tout devait être mis en œuvre pour que la région retrouve une certaine stabilité, stabilité qui pouvait vraiment aider la CEDEAO à aller de l'avant sur les questions économiques et d'autres questions importantes de la région.
Alors, Raoul, quatre coups d'État dans la région ouest africaine, dont trois au Sahel, en trois ans. Et ces coups d'État semblent quand même bénéficier du soutien d'une forte, bonne partie de l'opinion publique. Quelle lecture en faites-vous?
Je pense que les coups d'État qui sont faits par les militaires en ce moment, qui utilisent ce que j'appelle depuis le populisme, pour avoir la sympathie du peuple. On sait tous que l'Afrique en ce moment a besoin de refabriquer entre guillemets ses relations avec l'Occident, l'Europe, les États-Unis et d'autres pays. Les Africains veulent prendre leur avenir en main, les Africains veulent l'amélioration des populations. Et du coup, les militaires, moi j'appelle
c'est de bonne guerre, mais vous pensez qu'ils en profitent aussi?
Les militaires?
Oui.
Non, je pense que les militaires font des coups d'État pour des intérêts personnels. Mais quand ils font des coups d'État pour des intérêts personnels, pour que ça passe avec la population, ils utilisent le langage que la population va entendre. On veut chasser la France, on veut chasser les Européens, on veut réorganiser nos relations. Mais quand on regarde après le temps, on constate qu'il y a un échange. Si on regarde au Burkina, lorsque le colonel Damiba a pris pour des raisons sécuritaires, après le capitaine Sahoué est arrivé, mais on constate que ça ne change pas. C'est pratiquement la même chose. Et aujourd'hui au Niger, on avait notre coup d'État où le président Bazoum, dont on avait la chance de recevoir Houston l'année dernière, qui est en train de promouvoir son pays, veut prendre contrôle, recharger son armée, et il a un coup d'État. Moi, je pense même qu'il aurait dû faire ça à son arrivée, quand il a pris le pouvoir.
Justement, parlant de la CEDEAO, Ibrahim Yahia, la CEDEAO qui a imposé des sanctions et n'exclut même pas l'usage de la force, même si elle précise que qu'une intervention militaire serait la dernière option. La CEDEAO joue-t-elle un peu son va-tout ici en termes de crédibilité?
Oui, bien sûr, quand même, c'est facile à comprendre. Hein. Vous avez mentionné que ce coup est le quatrième coup. Et effectivement, elle était de contagion, elle était de l'humain. Et que si la CEDEAO ne se bouge pas pour mettre fin à cette spirale de coups d'État, on ne sait pas là où cela va s'arrêter. Aussi d'autres pays qui présentent les mêmes symptômes que le Niger, en particulier la situation sécuritaire qui se dégrade, la détention politique à la capitale, et que ces pays-là pourraient bien tomber dans le piège du coup d'État. Donc on comprend bien que la CEDEAO essaye d'adopter un langage de fermeté contre les militaires qui prennent le pouvoir. Maintenant, il faut aussi dire que le coup d'État font émerger des problèmes fondamentaux avec les régimes démocratiques que l'on a aujourd'hui. Et que la fermeté à elle seule ne suffit pas à résoudre les problèmes fondamentaux, y compris celui de la bonne gouvernance, celui de la capacité de ces États-là à fournir des services suffisants pour leur population, etc. Donc, c'est aussi à cela que se joue ce bras de fer entre la CEDEAO et les militaires qui prennent le pouvoir et qui permettent à leur population une meilleure gouvernance.
D'accord. Ibrahim Kane, avec les menaces croisées de la CEDEAO et des pays dirigés par les militaires, notamment le Mali, le Burkina et la Guinée, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une dislocation de l'organisation? C'est peut-être exagéré?
Pas tout à fait. Je ne pense pas que la crise nigérienne soit aussi vitale pour la CEDEAO. Mais la crise nigérienne est importante pour la CEDEAO en ce sens que la CEDEAO doit vraiment montrer qu'elle sert les intérêts des populations. Qu'elle sait qu'elle veut et qu'elle doit mettre en œuvre des stratégies visant non seulement à mettre un terme à cette violence qui est rampante dans la région, mais aussi faire en sorte que dans les États membres que le pouvoir reste entre les mains des Cubains. La fermeté de la CEDEAO s'explique aussi par le fait que le président du Nigeria veut montrer que le Nigeria, en tant que puissance régionale, veut également imposer une certaine façon de faire. N'oubliez pas qu'il y a de cela une vingtaine, une trentaine d'années, il y a eu des crises encore plus importantes que celles-là. Le Libéria, la Sierra Leone, la guerre civile. Et c'est le Nigeria qui a pris vraiment la tête d'un contingent militaire qui a mis un terme à ces guerres-là. Et c'est le Nigeria qui, au bout du compte, a tout fait pour que la région retrouve la paix et la sérénité. Donc, ici, ce pour moi, je dirais, plutôt que un enjeu pour la CEDEAO, c'est un enjeu pour le président Tinubu.
Tinubu
a mis la barre très haut, et maintenant, c'est à lui de prouver que le Nigeria est capable de mettre de l'ordre chez son voisin et que le Nigeria est capable d'amener toute la région vers la paix que nous appelons tous de notre vœu, parce que ces crises-là, on ne sait pas jusqu'à quand
ils vont durer.
Et elles posent des problèmes à l'économie, aux sociétés de la sous-région. Et donc, il faudra que quelque chose soit fait pour les mettre.
D'accord. Mais quoi qu'il en soit, Raoul, il ne semble pas y avoir de bonnes options. D'options faciles plutôt pour la CEDEAO, soit elle est accusée de passivité ou d'immixtion.
Il n'y a pas d'option facile, mais à ce niveau, un coup d'État de trop, toutes les options doivent être sur la table. Je pense que s'il faut aller avec la force, la CEDEAO doit aller avec la force. S'il faut une intervention militaire, la CEDEAO doit le faire. S'il n'arrive pas à trouver un deal avec les putschistes, les sanctions économiques sont là, mais je pense fermement qu'à ce niveau, la CEDEAO va frapper. S'il faut utiliser une intervention militaire, il faut le faire. Et au-delà même de la CEDEAO...
Avec toutes les conséquences que ça...
Avec toutes les conséquences. Parce qu'il faut arrêter. Je pense qu'au-delà même de la CEDEAO, l'Union africaine, parce que quand on regarde ces coups d'État espies, celui-ci a fait, c'est passé, de l'autre côté, c'est passé, et ça continue à circuler. Et du coup, on va se retrouver à des sommets de l'Union africaine ou de la CEDEAO avec des militaires. Et il faudrait bien que ça s'arrête.
Alors, on va continuer la discussion tout de suite après les commentaires Facebook et la petite pause. Nous avons Yao Marcelin Kofi qui est à Abidjan qui dit que le cercle des putschistes s'agrandit au Sahel. Nous attendons la CEDEAO sur des défis plus sérieux que ceux de vouloir rétablir militairement l'ex-président Bazoum dans ses fonctions. Les sanctions cruelles de la dite organisation ne feront qu'aggraver la souffrance des Nigériens. Charles Bazema à Ouagadougou écrit que la sous-région ouest-africaine est dans une sombre période avec des coups d'État à répétition. Malheureusement, cette situation ne profite pas à la lutte contre le terrorisme. Il faut aller sur la table du dialogue car une confrontation ne bénéficiera à personne. Et puis Alphonse Mbouaki de Kinshasa nous écrit, il dit « Le coup d'État au Niger est particulièrement inquiétant pour la région du Sahel où les forces armées nigériennes avec leurs partenaires occidentaux mènent une offensive contre les djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Un heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Dakar, Ibrahim Yahya Ibrahim, analyste principal à International Crisis Group. À Abidjan, Ibrahim Khan, analyste politique chargé de plaidoyer à Ossiwa auprès de l'Union africaine. Et avec moi ici en studio, Raoul Kedi, directeur général de Racket International LLC, également membre du conseil d'administration de la mairie de Houston dans le Texas. On me dit qu'on a perdu Ibrahim Yahya, on va essayer de le retrouver tout à l'heure, mais Ibrahim Khan, le Niger qui est un partenaire stratégique, disons, dans la lutte contre le terrorisme, partenaire des Occidentaux notamment, et durant ces manifestations pro-junte, on a vu beaucoup de drapeaux russes flotter à côté de ceux nigériens. Le Sahel et les puissances étrangères, comment faut-il l'analyser?
Alors, c'est très intéressant votre question parce que aujourd'hui, l'Afrique est l'enjeu de beaucoup d'intérêt de la part des puissances occidentales, en tout cas des puissances extérieures à l'Afrique. Tout le monde veut coopérer avec l'Afrique, mais tout le monde veut aussi placer ses pions en Afrique. Et la région sahélienne est la région la plus vulnérable de l'Afrique dans ce domaine-là, puisqu'elle, depuis quelques années, elle connaît des crises à ne pas en finir. Et c'est ce qui explique que les Russes se sont vite infiltrés dans les pays en crise, comme le Mali, comme le Burkina Faso, et que les Européens, eux aussi, veulent tout mettre en œuvre pour garder un pied dans cette région, parce que c'est la région la plus proche de l'Europe, et c'est aussi la région qui dispose de beaucoup de ressources, qui sont des ressources stratégiques comme l'uranium, et qui font que aujourd'hui il y a comme un enjeu véritable, en tout cas la présence de ces forces-là dans la région. Mais dans le cas nigérien actuel, je ne pense pas que ce qui se passe actuellement à Niamey a un lien particulier avec ces tentatives des puissances occidentales, en tout cas russes et européennes, de vouloir infiltrer. Mais cela ne veut pas dire que les Russes ne seront pas tentés, une fois que la crise connaîtra un certain nombre de développements, de prendre aussi parti dans cette crise, d'autant plus que deux de leurs alliés ont montré un intérêt très clair pour la protection des intérêts des militaires au niveau de du Niger. Et donc, d'accord, je pense qu'il est important pour la CEDEAO de tout mettre en œuvre pour que le Niger ne soit pas le troisième pays de la sous-région à faire l'objet d'enjeux entre puissances étrangères. Et je pense que la CEDEAO a les moyens de le faire, parce que la CEDEAO coopère aussi bien avec les États européens qu'avec la Russie. Si vous regardez les interventions russes, ou tout plutôt les ventes russes, notamment d'armes dans la sous-région, les plus grandes...
La Russie est déjà présente depuis des années, effectivement.
Nigeria, oui. C'est le Nigeria et autres. Et donc le Nigeria dispose de moyens pour vraiment ramener les Russes à de meilleurs sentiments dans ce domaine-là. Mais le risque est là et il faut tout faire pour le conjurer et faire en sorte que rapidement le Niger revienne dans la à une situation normale et qu'on puisse vraiment chercher à résoudre le problème du djihadisme de façon plus cohérente.
Alors, Ibrahim Yahya, vous êtes de retour avec nous et vous travaillez beaucoup sur la question sécuritaire dans le Sahel, justement. Comment est-ce que la région doit gérer ses relations avec ses puissances étrangères, occidentales, et également la Russie et même d'autres, justement, pour tacler cette question sécuritaire?
Parce que je crois que déjà il faut dire que la présence des forces étrangères est un enjeu dans ce coup d'État-là. Il faut dire que le Niger accueille des forces étrangères venant de plusieurs pays, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, etc. La présence de ces forces-là ne fait pas l'unanimité, ni au sein de l'opinion publique, ni au sein de contre-armée de l'armée. Je crois que vous avez pu le remarquer juste après le coup d'État, les manifestations se sont produites à l'ambassade de France pour s'attaquer à cette ambassade-là, parce que les gens accusent la France qui intervient militairement au Niger pour contrer la montée des groupes djihadistes, qui l'accusent de jouer un double jeu. Donc ça c'est un enjeu très important. Il est clair que les États du Sahélien ont besoin de soutien pour faire la guerre contre le groupe. On se rend bien compte que quand il y a ce soutien-là, c'est très rare au Burkina Faso, l'État est en train vraiment de sombrer dans cette crise-là. Maintenant, c'est aussi aux Sahéliens de savoir définir le cadre de cette collaboration-là. Il faut qu'ils prennent en charge la conduite de cette opération, qu'ils définissent les objectifs eux-mêmes, et que si les acteurs internationaux veulent contribuer à cet effort-là, qu'ils le fassent en donnant un soutien plutôt qu'en imposant des stratégies à ces États.
D'accord.
C'est très important.
Oui. Alors Raoul, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Raoul, à la dernière Assemblée générale de l'ONU l'an dernier, Macky Sall, qui était à l'époque le président en exercice de l'Union africaine, avait dit que l'Afrique était en train de devenir, ou de redevenir certainement, un terrain de rivalité entre puissances. Mais l'Afrique peut quand même en tirer profit. On n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre partenaire.
Bien sûr, l'Afrique peut en tirer profit. On n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre partenaire parce qu'on a une affaire. On a une affaire avec le plus offrant. Ça veut dire un deal gagnant-gagnant. Je pense pas que aujourd'hui les Africains doivent laisser tomber la France ou bien, je sais pas, l'Angleterre ou la Russie ou les États-Unis. Mais c'est de s'asseoir avec chaque partenaire et négocier, voir où nous avons nos intérêts. Et on peut s'arranger. Même s'il faut renégocier certains deals, il faut le faire. Mais je pense qu'on doit travailler avec chaque partenaire et trouver un deal gagnant-gagnant.
D'accord. Alors, j'ai deux minutes. Rapidement, Ibrahim Kane, avant d'aller à Yahya Ibrahim. Finalement, comment garantir la stabilité institutionnelle avec tous ces coups d'État récurrents? Une minute.
La garantie, c'est respecter les normes de la CEDEAO. Les normes de la CEDEAO depuis 2001 sont très claires. Les militaires doivent être dans les camps, les militaires doivent gérer les frontières, les militaires doivent assurer la sécurité du peuple, mais les militaires ne peuvent pas gérer un État. Et ça doit être clair dans l'esprit de tout le monde. Et c'est en faisant cela que nous pourrons vraiment nous attaquer aux problèmes les plus sérieux de notre pays.
D'accord.
On ne peut pas laisser persévérer les États à leur manière.
Ibrahim Yahya, vous avez le dernier mot?
Merci beaucoup. Moi, je crois que ce coup d'État pose un problème sérieux, beaucoup plus profond que la question de la gestion de l'insécurité, etc. Il pose un problème qui est celui de la performance des États démocratiques qui sont installés depuis bientôt 30 ans et qui n'arrivent pas à se hisser à la hauteur des attentes de leur population. Même si on aime maintenir ces États-là, je crois qu'un besoin essentiel de réforme en profondeur du système de gouvernance se trouve être nécessaire. Sans ça, ce coup d'État, je crois que nous risquerions de se poursuivre et les exigences de la CEDEAO ne vont pas nécessairement nous arrêter. Pour moi, je crois que la question fondamentale, c'est la question de la gouvernance de ces États-là. C'est la question de fournir des services en qualité, en quantité suffisante.
D'accord. Certainement un débat à suivre. Merci beaucoup à tous mes invités pour cette émission, d'avoir participé à cette émission. Je remercie également les télépartenaires de la Voix de l'Amérique qui nous reprennent sur le continent, mais également toute l'équipe technique. Une émission à suivre sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook, également sur YouTube. À très bientôt. Au revoir.